Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Comment peut-on promouvoir la langue française, l'enseignement, l'apprentissage du français langue étrangère à travers des supports et des outils pédagogiques originaux, quelquefois même surprenants ? Tel est le sujet de notre émission et pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'inviter Michel Boiron, le directeur du CAVILAM. Alors tout de suite, bonjour. CAVILAM, bonjour Michel Boiron, merci d'avoir répondu à notre invitation. CAVILAM, C-A-V-I-L-A-M, qu'est-ce que ça veut dire ?
CAVILAM, ça veut dire Centre d'approche vivante des langues et des médias. C'est en fait une association, un centre de formation qui a été créé en 1964 par la ville de Vichy et par l'université de Clermont-Ferrand. Et à l'époque, ça s'appelait Centre audiovisuel de langue moderne, parce qu'à l'époque, c'était l'innovation pédagogique, c'était les méthodes audiovisuelles. Et donc, nous avons récemment changé de nom pour devenir Centre d'approche vivante des langues et des médias, qui est notre dénomination actuelle.
Alors, vivante, parce que vous attachez beaucoup d'importance à ce que les élèves, justement, soient très actifs.
C'est d'abord, en fait, un centre de formation, effectivement, où l'on reçoit des élèves du monde entier, puisque près de 3000, même plus de 3000 étudiants viennent chez nous chaque année pour apprendre le français. Ils viennent de plus de 110 nationalités. Et effectivement, nous leur proposons une pédagogie qui est une pédagogie différente de celle qu'ils peuvent rencontrer dans leur propre pays. Il s'agit à la fois d'apprendre le français, mais il y a aussi la manière d'apprendre qui est importante. C'est-à-dire que nous recevons des étudiants qui restent chez nous pendant un temps limité. Et il faut qu'ensuite, ils aient acquis aussi le savoir-faire pour continuer à apprendre lorsqu'ils sont rentrés chez eux ou bien lorsqu'ils continuent leur parcours professionnel ou leurs études ici en France, dans les écoles centrales ou à l'École nationale d'administration ou dans une université, par exemple.
Alors ça, c'est pour le côté étudiant, donc plus de 3000 étudiants, et pour le côté professeur, car vous vous occupez aussi des professeurs au CAVILAM.
Tout à fait, c'est-à-dire que d'une part, il y a cette facette de notre métier qui est enseigner le français aux étrangers. Quand on parle de français langue étrangère, c'est en fait plutôt enseigner le français aux étrangers, aux personnes qui ne sont pas de nationalité française et qui ne parlent pas la langue française et non pas une langue qui serait étrangère. Parfois, on aurait envie même de dire le français langue amie.
Le français plutôt qu'étrangère, oui, le voilà, mot est un peu négatif.
Ça serait plutôt le français langue de partage, par exemple, qui serait une définition qui serait plus proche de ce que nous voulons enseigner. Donc, en fait, pour revenir à ces étudiants, donc, il y a effectivement des personnes qui viennent en France pour étudier la langue française, mais il y a aussi, bien entendu, beaucoup de personnes dans le monde, des millions de personnes qui apprennent la langue française à l'étranger, dans d'autres pays. Et sur les 5 continents, le français fait partie des quelques rares langues qui, effectivement, sont enseignées dans pratiquement tous les pays du monde et, évidemment, sur tous les continents. Donc, partout dans le monde, il y a des enseignants de français. Et le CAVILAM n'est pas simplement un centre de formation pour ses étudiants en France, mais développe également des techniques et des approches pédagogiques qui permettent, si possible, d'améliorer l'enseignement du français. Donc, nous recevons au CAVILAM, effectivement, chaque année, environ entre 850 et 900 professeurs qui viennent, eux, d'environ 70 nationalités et qui viennent chez nous pour réfléchir à leurs pratiques professionnelles.
Donc, au CAVILAM, vous êtes une sorte de centre de recherche pour innover des outils pour les professeurs, pour qu'ils enseignent le français. Quel genre d'outils, par exemple ?
Alors, effectivement, c'est l'autre facette de notre métier. C'est-à-dire que d'une part, nous enseignons le français, d'autre part, nous enseignons à des professeurs comment enseigner le français et on essaie de les aider en fait dans leur travail, c'est-à-dire nous ne sommes pas ceux qui savent tout et puis eux ils ne sauraient rien, nous sommes ceux qui aidons à réfléchir et qui permettent à des personnes de découvrir leur propre voie. Mais ensuite effectivement nous avons tout un travail de recherche pédagogique appliquée qui a un objectif finalement. Cet objectif c'est faire entrer l'innovation pédagogique dans la classe au quotidien ou que ce soit dans le monde. Et pour cela effectivement le Cavillam a développé un ensemble de partenariats avec à la fois des médias et puis également des institutions. Alors, parmi les médias les plus connus, c'est TV5 Monde, chaîne avec laquelle nous travaillons déjà depuis 12 ans et avec laquelle nous avons développé tout un ensemble d'outils pour faire entrer dans la classe des extraits d'émissions de télévision ou des extraits de fiction, des extraits du journal télévisé. Et ces extraits ou ces documents dits authentiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été créés pour être utilisés en classe, ces documents sont utilisés pour servir de support à l'expression orale ou l'expression écrite dans une classe de français. On travaille avec TV5 Monde, on travaille avec RFI, Radio France Internationale, avec laquelle, par exemple, nous avons développé un cours de français à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ce texte de 1948, qui est un texte, j'ai envie de dire, universel, et qui est un texte à la fois historique et un texte juridique, a servi de base à la construction d'un cours de français qui permet de réfléchir à la fois au texte lui-même, à ce qui est dit dans ce texte, qui permet d'associer des témoignages de personnes qui sont concernées par ces droits de l'homme et qui permet donc de faire s'exprimer des élèves sur ce qu'ils pensent de tel ou tel article, ou sur la situation dans leur propre pays, de faire réfléchir aussi. Voilà deux exemples de coopération.
Alors ça se manifeste comment concrètement? C'est-à-dire les professeurs ont un DVD, un CD, des vidéocassettes? Enfin, comment
oui,
vous faites?
Alors j'ai peut-être envie de revenir un peu en amont, c'est-à-dire que dans l'esprit de nombreux élèves et de nombreux professeurs, apprendre une langue, c'est apprendre des mots, apprendre des phrases, apprendre des règles de grammaire.
Oui,
et pour nous, apprendre une langue, c'est beaucoup plus que ça. J'ai envie de citer un académicien français qui est...
C'est bienvenu ici, c'est
voilà.
Bienvenu.
Un académicien français qui est d'origine chinoise, qui est François Cheng. Et François Cheng, dans un livre qu'il a écrit, je crois, en 2002, qui s'appelle « Le dialogue », dit que son mot français préféré, dans la langue française, son mot préféré, c'est le mot « sens ». Alors d'abord, le mot « sens » est un très joli mot, déjà de manière sonore. Mais le mot « sens » est très beau aussi parce que dans le mot « sens », il y a les cinq sens. L'ouïe, le toucher, le goût, la vue et l'odorat. Et donc, pour nous, apprendre la langue, ce n'est pas apprendre des mots, des phrases et des règles de grammaire. Apprendre la langue, c'est justement avoir accès au sens, à travers tous les sens. Donc, dans notre travail, concrètement, nous essayons de faire entrer dans la classe des éléments qui ne sont pas uniquement linguistiques. Mais par exemple, nous travaillons avec la chanson. Donc, dans la chanson, les élèves, quel que soit leur âge, reçoivent tout d'abord une sollicitation qui est esthétique. C'est-à-dire, on entend de la musique. Il y a effectivement la voix, une instrumentation, il y a une interprétation, il y a de l'émotion, et puis il y a un texte avec un contenu. Mais le message, c'est l'ensemble de tous ces éléments. Quand on fait entrer dans la classe la télévision, dans la télévision, vous avez à la fois évidemment un message linguistique lorsqu'il y a des personnes qui parlent entre elles, mais vous avez des images. Donc dans ces images, il y a des lieux, il y a des atmosphères, il y a des mouvements, il y a des actions qui ne sont pas des informations proprement linguistiques, mais qui sont perçues par l'élève. Et donc, on fait entrer dans cette classe des informations qui ne sont pas uniquement linguistiques. Et donc, en gros, pour résumer, on fait entrer une dimension affective à l'intérieur de l'enseignement. Ce qui fait que quand l'élève apprend effectivement une phrase où il apprend un savoir, par exemple, parmi les savoirs, si vous voulez, qu'on essaie de développer, il y a en gros trois savoirs. Le premier, c'est être capable de désigner, de nommer, d'identifier et de nommer en français oui. quelque chose que l'on voit ou que l'on entend. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que l'on a vu ou ce que l'on a perçu, ce que l'on a été capable de désigner, être capable, cette fois-ci, c'est la deuxième activité essentielle, être capable d'exprimer son opinion, son accord ou son désaccord, être capable d'exprimer un sentiment ou d'être capable de présenter une idée. Voilà le deuxième grand type d'activité vers lequel nous tendons à partir de chansons, d'images, de vidéos, de films, de bandes dessinées, même de n'importe quel support. Et la troisième idée, c'est que on a appris à désigner des choses, à les repérer, à les observer, à les constater. Mmh. On a appris à exprimer son opinion. Oui. Et maintenant, en s'inspirant de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a pu toucher, par exemple, si c'est de l'art ou si c'est de la nourriture, on va maintenant passer à un espace pratique qui va être que soi-même, en tant qu'individu, on va créer, soit ça peut être un texte, par exemple, écrire un journal intime à l'image d'un auteur français, par exemple, écrire un texte en plagiant un auteur français, ou bien créer une affiche ou créer un dépliant touristique.
Être très actif, voilà, alors, c'est-à-dire devenir
qu'on est,
actif.
Voilà, on est très actif, c'est-à-dire qu'on s'inspire du document qui était la source de notre travail. Et maintenant, l'élève, avec le guidage de l'enseignant, va devenir autonome et va lui-même créer quelque chose. En fait, ces trois étapes vont amener l'élève à être autonome et à prendre en main lui-même son propre apprentissage. Voilà l'idée qui est derrière. Alors, on utilise effectivement tout un ensemble d'éléments qui font entrer le monde contemporain à l'intérieur de la classe. Normalement, dans une classe, il y a ce qui se passe dans la classe et il y a le monde autour. Et nous, nous essayons que le monde autour entre dans la classe pour que le français ne soit pas vécu par les élèves comme une langue morte, comme une langue sans vie, dans laquelle, finalement, quelle est la différence entre le français et le latin ? Si apprendre le français, c'est apprendre des règles de grammaire et des listes de mots. Apprendre le français, ça devient une langue vivante à partir du moment où on communique à l'intérieur de la classe, mais où aussi on apprend des choses, on apprend des contenus, on s'enrichit personnellement en, par exemple, apprenant ce que c'est que ce qui se trouve, par exemple, dans un musée comme le Louvre, ou en découvrant telle ou telle règle mathématique, ou en découvrant tel ou tel écrivain français en lisant son texte. L'idée d'apprentissage n'est pas uniquement un apprentissage lié à la langue elle-même. La langue, c'est beaucoup plus, c'est la langue et la culture. Et on essaie de défendre cette idée à la fois auprès d'élèves, mais aussi auprès des professeurs.
Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément cette formation eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cette réflexion pédagogique. Je vois que vous vous êtes
pas
beaucoup
toujours
penché sur cette réflexion. Parce que Michel Boiron, vous-même, vous êtes enseignant, vous avez été un peu gêné par le côté justement rigide et puis vous avez voulu faire de l'innovation.
En fait, j'ai envie de dire j'étais un mauvais élève.
Vous étiez un mauvais élève.
Voilà, ou plus exactement, j'étais un bon élève, mais j'étais un élève très dissipé, un petit peu turbulent dans la classe. Ce n'est pas toujours pratique pour les enseignants d'avoir un élève turbulent. Et ce qui me frappait quand j'étais moi-même élève, c'est que lorsqu'un élève posait une question dans la classe, on pensait toujours que c'était parce qu'il ne comprenait pas ce que le professeur avait dit ou qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors qu'en fait, un élève peut poser une question parce qu'il est intéressé par le sujet. Et donc, dans ma carrière en fait, d'enseignant, je me suis toujours posé cette question-là. C'est-à-dire, en se positionnant, il y a la position du professeur, il y a la position de l'élève, et c'est comment intéresser l'élève ? Comment faire pour que lui, il soit motivé ? Comment éveiller ce désir d'apprendre ? Et quand je dis ça, je ne suis pas très original, parce que le terme « désir d'apprendre » a été utilisé déjà par Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez, déjà,
dans l'Émile, voilà.
Et l'Émile, justement. Et il a parlé du désir d'apprendre, qu'il fallait éveiller le désir d'apprendre chez l'élève. Eh bien, je crois que ceci est au centre de l'activité. Comme on ne peut pas conjuguer le verbe « apprendre » à l'impératif. Je peux dire à des élèves
voilà
apprenez.
Voilà une jolie formule.
Je peux dire à des élèves apprenez, mais ils ne l'apprendront pas. Si l'élève ne se décide pas à apprendre, je ne peux pas le forcer à apprendre. Donc l'idée, c'est comment faire pour amener l'élève à se décider à apprendre. Et ça, c'est vrai dans une classe de français langue étrangère, mais c'est vrai dans n'importe quelle classe et n'importe quelle matière. Donc c'est le fond du problème. Donc pour nous, l'idée par rapport à la langue, c'est que ce qui est difficile pour un élève, c'est justement les mots, les phrases, les règles de grammaire. C'est la compréhension de ce monde qui est opaque pour lui puisqu'il est étranger. Le français, langue étrangère. Et donc, comment arriver à lui donner ce désir d'apprendre ? Eh bien, justement en faisant entrer dans la classe des éléments non linguistiques. La chanson, la danse,
oui, et vivant,
l'art,
et vivant,
voilà, tout ce qui est vivant.
Oui, tout ce qui est vivant, tout ce qui l'entoure, tout ce qui fait que le monde autour est intéressant.
Oui, puisqu'il crée le lien entre le monde de la classe et le monde extérieur. Ce qui crée, j'ai envie de dire, un lien entre ce que l'élève fait et ce qu'il est en tant que personne. Et puis, si je puis me permettre, je voudrais parler aussi un petit peu de l'idée de professeur. Il y a, lorsque nous sommes enseignants d'une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'italien ou le français, en fait, un professeur de langue est amené sans cesse à parler la langue qu'il enseigne avec des élèves qui parlent a priori moins bien que lui. Et donc, la question qui se pose de manière cruciale, c'est comment faire pour que l'enseignant ne désapprenne pas la langue qu'il enseigne avec ses élèves. Et à partir de là, on va tourner la phrase de manière positive. Comment faire pour que le professeur continue à apprendre la langue qu'il enseigne avec ses élèves? C'est exactement là que se situe le nœud pédagogique, hein, auquel on va essayer de trouver une solution. Et cette solution, elle est dans le fait d'utiliser des documents qui permettent au professeur aussi de continuer à apprendre. Alors, je m'explique, c'est lorsque je prépare mon cours de français ou d'anglais ou d'allemand ou d'italien, je vais me poser la question, est-ce que j'ai appris aujourd'hui quelque chose de factuel en préparant mon cours? Alors aujourd'hui, par exemple, les auditeurs de cette émission ont peut-être appris qu'il y a un académicien français dont le nom est François Cheng et qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le dialogue » et que dans ce dialogue, dans ce livre, cet auteur dit que son mot français préféré, c'est le mot « sens ».
Voilà.
Eh bien aujourd'hui, en préparant mon cours, j'ai appris ceci. Voilà l'idée qui revient sans cesse.
Donc la réflexion, en effet, porte sur l'étudiant, mais aussi sur le professeur. Michel Boiron, on va marquer une courte pause. Vous parliez de la chanson tout à l'heure. On va écouter un petit moment de chanson, puis on va reparler de la chanson après.
Avec plaisir.
Après ces quelques mesures de chansons, c'était Tété, paroles et musique Tété, et la chanson s'intitule « Fils de Cham ». Alors, on revient avec Michel Boiron, le directeur du Cavilam. Michel Boiron, la chanson, c'est véritablement un outil pour apprendre la langue française?
Eh bien, d'abord, j'ai envie de dire que c'est d'abord une passion. Voilà. Avant d'être un outil, c'est une passion. C'est une passion personnelle, en fait. Bon, j'écoute de la chanson depuis très longtemps, bien sûr. Et lorsque j'étais jeune professeur, j'avais l'habitude de faire chaque année une collection de chansons que j'utilisais moi-même dans mes classes et de noter à côté ce que j'avais fait avec les élèves en utilisant cette chanson. Et en fait, ce procédé est devenu en fait un projet pédagogique quand je suis devenu vieux et très sérieux.
Donc, oui, ça n'a pas l'air encore d'être tout à fait le cas.
C'est devenu un vrai projet pédagogique international à dimension mondiale. Et donc effectivement, depuis maintenant 1992, donc depuis plus de 15 ans, avec la complicité du Bureau Export de la musique française, d'un monsieur qui s'appelle Patrice Urbette et puis d'une dame qui s'appelle Gaëlle Hurtubis, régulièrement, donc, nous sélectionnons à l'intérieur de la production française et francophone une vingtaine de chansons qui sont présentées dans un disque et qui ont pour objectif de montrer justement la diversité de la création artistique musicale actuelle en France. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire entrer ces chansons dans les classes de français.
Voilà.
Alors, effectivement, la chanson peut être un outil pour l'apprentissage du français. Alors, pourquoi ? Premièrement, parce que la chanson, c'est quelque chose qui n'est pas linguistique. C'est-à-dire que la chanson fait entrer à l'intérieur de la classe un univers qui est musical. Et effectivement, bon, tous les auditeurs le savent, ils écoutent sans doute des chansons à la radio et ils n'écoutent pas forcément les paroles. Parfois, on est simplement accroché par une mélodie, par une voix, par une orchestration. Et donc là, c'est la même chose. À l'intérieur de la classe, on va essayer de faire entrer ces chansons pour essayer de trouver chez chacun des élèves peut-être la clé du désir d'apprendre, la clé du plaisir d'apprendre et du plaisir d'écouter. Donc l'idée, c'est en fait... Les chansons, il y a toujours une musique, des instruments, une orchestration, une interprétation, et il y a également des paroles, un texte. Et donc, on va faire travailler ces élèves, justement, sur l'univers musical et aussi, évidemment, sur le texte, puisque nous sommes
voilà,
professeurs
de français. Voilà, le vocabulaire, les paroles, l'expression orale. Et
donc, oui, alors effectivement...
Il y a un petit livret que j'ai sous les yeux et qui, quand même, aide les professeurs à savoir ce qu'ils peuvent faire avec chacune de ces chansons.
Ben, nous savons tous que, bon, travailler avec quelque chose qu'on ne connaît pas, ce n'est pas facile. Donc, nous, notre travail, si vous voulez, c'est de proposer à des professeurs, d'une part, un choix très large
oui,
de
très,
styles
très
musicaux.
Différent, oui, oui.
C'est-à-dire qu'on a aussi bien, dans un projet comme cela, on fait aussi bien appel à la chanson presque traditionnelle, à la grande chanson de variété, par exemple Benabar ou Olivia Ruiz, bon, qui sont des artistes à grand, grand succès, puis aussi, ou Émilie Simon, par exemple. On peut faire appel, bien sûr, aussi à des artistes moins connus, comme Babette, ou un groupe, par exemple, comme Prototype, qui est pratiquement inconnu. Et puis, on va faire appel à des styles musicaux très différents, comme par exemple avec Diams sur le rap, ou bien avec Abdelmalik, avec le slam, par exemple. Et donc, tous ces styles musicaux sont destinés à cette fréquentation de styles musicaux très différents est destinée à toucher telle ou telle personnalité présente dans la classe. Et ensuite, il y a tout un travail là aussi à partir de la chanson. Donc un travail, comme je le disais dans les minutes qui précédaient, un travail d'une part sur le fait qu'on n'est pas simplement en train d'écouter une chanson, on écoute activement une chanson. La différence entre écouter à la radio quand on est dans une voiture ou en train de prendre une douche ou de prendre un bain,
là
c'est
où
que
on est
bon
passif,
la chanson
et puis elle
voilà,
se déroule.
La chanson est une espèce de fond sonore, tandis qu'ici on va écouter la chanson attentivement, et par exemple des élèves qui ne parlent pas français sont capables de reconnaître à l'intérieur d'une chanson qu'ils ne comprennent pas, ils sont capables de reconnaître quelques instruments qui servent à l'orchestration. Et ça leur donne une entrée dans cette chanson. Pour d'autres qui sont plus avancés au niveau de la connaissance linguistique, on va faire réfléchir au thème de la chanson. Puis on va lire la chanson. Et même pour des professeurs de français, les textes ne sont pas forcément clairs. Nous-mêmes qui sommes...
Non, il y en a même pour moi, j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-uns.
Eh bien, je vous console tout de suite, même pour moi en tant que professeur de français et personne qui est avec Gaëlle Hurtebise, qui est ma complice dans ce projet, personne qui ait choisi ces chansons, il y avait des textes de chansons que nous n'avons pas compris au départ. Et on a même été obligé pour l'une d'entre elles d'appeler les auteurs et de dire « mais on ne comprend pas ce mot, pourquoi ?» Bien parce que en fait, certes, quelque part, nous enseignons, nous apprenons la langue française, mais en même temps, il n'y a pas une langue française. Il y a effectivement peut-être une langue des académiciens, il y a peut-être aussi une langue par milieu social, il y a aussi des langues carrément par groupe de personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans tel ou tel lieu géographique en France, on va trouver dans tel ou tel lycée, dans tel ou tel collège, des codes qui sont vraiment limités au groupe de personnes qui sont des copains ou des copines qui vivent ensemble. Et donc, dans le cadre de la chanson, on retrouve aussi ces particularités. Ce qui fait que tel ou tel mot, telle ou telle expression peut être inconnue pour nous aussi. Donc, l'idée, c'est pour des professeurs de français qui habitent à l'étranger, ceci pourrait être décourageant, puisque même des Français ne comprennent pas les paroles.
Oui, donc, enfin, ce n'est pas toutes les paroles, c'est quelques
heureusement,
mots quand même.
Heureusement, c'est quelques mots. Mais donc, nous, ici, nous jouons un rôle en disant, ben voilà, vous voyez, ici, on a des jeunes Français, ils habitent en banlieue parisienne, ils ne parlent pas le français comme on parle français quand on est architecte ou avocat ou ministre. Et donc, ils ont un autre parler. Il ne s'agit pas d'apprendre à parler comme eux, mais il s'agit de se rendre compte que le français est une langue multiculturelle, quelque part, qu'elle porte en elle-même et dans les différentes expressions artistiques qui existent aujourd'hui, cette diversité culturelle. Et donc, c'est ça que nous essayons d'illustrer. Alors, donc, il y a des exercices, effectivement, il y a des explications qui servent à la fois aux élèves et aux professeurs, et ensuite, il y a des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on entend par exercice ? Eh bien, il y a des exercices qui permettent de repérer des informations, soit à l'intérieur de la musique, soit à l'intérieur des paroles. Puis ensuite, il y a des exercices qui permettent d'exprimer une opinion ou de permettre ou d'exprimer ce que l'on pense sur un sujet particulier. Par exemple, on parle d'intégration de personnes étrangères à l'intérieur d'une société. Ce n'est pas un problème typiquement français. C'est un problème que l'on retrouve ou une question que l'on retrouve dans tous les pays du monde.
Bien sûr. Donc il y a toujours s'exprimer sur ce point.
Voilà, il y a toujours l'étranger qui arrive dans une communauté. Comment est-ce que cela est traité dans tel ou tel pays? Je ne sais pas. Mais ce que je peux faire, c'est créer un exercice ou proposer comme activité de réfléchir à la manière dont on accueille l'étranger. Les étapes de la vie, par exemple, sont, on peut dire, la naissance, le mariage, puis le décès, enfin, ou les rencontres, les séparations, etc. Enfin, il y a beaucoup d'événements de la vie qu'on retrouve également dans les chansons. Ces événements, ces étapes fondamentales de la vie d'un être humain se retrouvent dans tel ou tel autre pays. Simplement, elles ne sont pas vécues, elles ne sont pas perçues de la même manière. Mon travail n'est pas de dire « voilà comment il faut vivre les choses ». Mon travail, c'est de dire « comment est-ce que vous vivez ces choses-là ?» Et imaginez que vous rencontrez un Français, vous allez donc maintenant essayer d'exprimer en français comment cette vie, comment cette étape de la vie est perçue et vécue dans votre pays. Donc, c'est ce type d'expérience qui est faite et qui est ce type d'activité. Et enfin, il y a toute une série d'activités qui disent, bon, vous allez écouter une chanson, donc maintenant, on va la chanter ensemble, par exemple.
Voilà, on va faire quelque chose, on va être créatif. Chose.
On a travaillé sur un texte qui parlait de l'amitié. Maintenant, vous allez, comme type d'exercice, vous allez écrire une lettre à un ami inconnu dans le monde. Hein, vous avez vu, c'est par exemple, vous avez vu à la télévision l'image d'un Français qui était, je ne sais pas, à Paris, en train de se promener. Et maintenant, vous écrivez une lettre à ce Français en
Alors,
lui racontant votre vie.
Alors, c'est ce que vous proposez là, Michel Boiron. On va passer quelques notes de L'homme songe de Aldebert, qui est un prénom de troubadour merveilleux. Et cet Aldebert, alors vous proposez comme exercice, écrivez une lettre imaginaire au premier homme de l'humanité.
Voilà,
alors,
ça, c'est une chanson
écoutons
merveilleuse.
Écoutons Aldebert.
Je viens, je n'en sais rien, d'un sapiens ou d'un saurien, du grand Big Bang, d'un petit rien, d'où vient ce gang de terriens? De qui découle le sang neuf? Qui? De la poule, de l'œuf, et c'est l'homme et le parent, de la pomme et du serpent. Toi ni moi, les doyens, les papas des citoyens, quelques mains et des dents, avec le plein d'humains dedans. À trop rêver, le cœur comme une éponge, la vérité, c'est que l'homme descend du songe. L'homme descend du songe. L'homme descend du songe. L'homme descend du songe. L'homme songe, descend de 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 songe, songe.
Michel Boiron, il y a aussi dans ce petit livret qui accompagne le disque Génération française, je signale que là on est en train de parler du numéro 6, il y a quelque chose qui s'intitule un paragraphe pour aller plus loin. Alors, on va où plus loin?
Oui, alors, d'une part, on vient d'écouter L'homme songe, hein, qui est une chanson de Aldebert, qui est une chanson très typique pour nous, c'est-à-dire qu'elle a été choisie parce que, justement, elle est un lien entre la culture européenne et la culture africaine. Et que c'est créer des ponts, créer des passerelles entre les cultures, ça fait partie aussi des idées que l'on essaie de défendre. Alors, effectivement, il y a, à la fin, il y a toute une série d'activités. Ça se termine souvent par pour aller plus loin. L'idée, c'est que justement, aucun document n'est isolée dans le monde. Une chanson n'existe pas toute seule, hors de la société, sans un contexte. Un texte littéraire n'existe pas tout seul, sans œuvre d'art, sans musique, sans paysage, sans air, sans température. C'est cette idée-là, c'est-à-dire que on est ici dans une classe et on va travailler avec un document, une chanson, une pièce de théâtre, un extrait de film, mais ça, c'était un travail de classe, c'était ici, dans ce monde, dans le cours de la classe. Et on va inciter les élèves et les professeurs, toujours.
Qui doivent apprendre aussi, oui.
Qui sont là en situation, eux aussi, de découverte. On va les inciter à aller voir plus loin, soit sur des sites internet, soit aller chercher dans des encyclopédies, soit essayer de trouver, par exemple, ça peut être, on a travaillé sur une image. Je prends là un exemple qui n'est pas une chanson, mais on a travaillé sur une reproduction ou sur un tableau. Et sur ce tableau, il y avait une femme qui était représentée avec un enfant. Donc, une femme et un enfant, ça rappelle la Vierge Marie et l'enfant. Donc, on va essayer de demander aux participants d'aller chercher, par exemple, dans des livres ou dans des encyclopédies, d'aller chercher d'autres images.
D'élargir leur connaissance.
Où on voit aussi une femme et un enfant représentés. Puis, ils vont revenir dans la classe, cette fois-ci, avec le résultat de leur recherche. Et là, on va comparer, justement, le fruit de leur recherche. Donc, il y a une idée de dire, ben, vous êtes en classe, vous apprenez le français, mais le français, ça ne sert pas à apprendre le français. Le français, ça sert à apprendre à découvrir le monde, à découvrir des contenus, à acquérir des connaissances. Et ensuite, acquérir des connaissances, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si on ne partage pas ses connaissances. Donc, on revient avec le résultat d'une recherche et ensuite, on partage avec les autres participants le résultat de cette recherche. Voilà en gros, si vous voulez, le schéma qui sous-tend tout le travail que nous faisons au niveau pédagogique. Vous voyez que ça dépasse largement la simple idée d'apprendre la langue française. C'est une idée d'accès à l'éducation, d'accès à la connaissance.
Oui, je comprends. J'ai même très envie d'aller apprendre avec vous une langue étrangère. Michel Boiron, il y a aussi un autre espace. Alors, vous nous avez parlé de ce que vous faites avec TV5 Monde et avec RFI et avec beaucoup d'autres partenaires. Mais dans vos partenaires...
Je me permettrai de dire que tous ces travaux ne sont possibles en fait qu'avec la complicité de partenaires, toujours.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je suis professeur de français à l'origine et mon travail, c'est pas de... Enfin, je peux écrire de la poésie, je peux écrire des livres si je veux, mais je ne suis pas écrivain. Mon métier de professeur n'est pas d'être écrivain. Mon métier de professeur, c'est de mettre en valeur, c'est de passer du savoir, c'est de mettre en valeur ce que les autres ont fait. Donc, par exemple, si on travaille sur un film, mon travail va être de mettre en valeur ce qui fait l'intérêt de ce film. Voilà l'idée aussi, toujours. C'est-à-dire, le professeur est un passeur de savoir. C'est aussi une activité, ou c'est aussi un métier qui permet d'acquérir des connaissances et de les partager avec les autres. Et donc, c'est cette idéologie aussi que l'on défend. Alors, c'est possible parce que le ministère des Affaires étrangères et européennes nous aide, parce que l'Organisation internationale de la francophonie nous aide, parce que la délégation à la langue française et aux langues de France nous aide aussi, de manière à créer ces outils pédagogiques qui sont ensuite diffusés dans le monde entier.
Et justement, avec ces trois partenaires que vous venez de citer, vous venez de créer, avec Canal Academy, disons-le, un partenariat intéressant, puisque vous avez créé un espace qui s'appelle Espace Apprendre.
En fait, nous l'avons créé ensemble et j'en suis très heureux. Alors effectivement, à partir de novembre 2007, apparaît sur canalacademy.com un nouvel espace qui s'appelle Espace Apprendre et qui propose en fait aux auditeurs, et nous allons définir qui sont ces auditeurs, un parcours ou des parcours d'écoute active des émissions de canalacademy.com. L'idée à l'origine, c'est tout simplement que Canal Academy diffuse sur son site des interventions d'académiciens et de spécialistes français et francophones dans tous les domaines de la connaissance.
Oui, pas seulement la langue, hein,
oui,
mais aussi les sciences, l'art, etc. Oui.
C'est justement ça qui est intéressant.
Oui. Hein,
c'est cette ouverture sur la connaissance dans tous les domaines de la connaissance. Et donc, l'idée a été de choisir à l'intérieur de ces documents qui sont accessibles partout dans le monde, de choisir des extraits sur lesquels on va se concentrer et à partir de ces extraits, de s'en servir comme base d'activités qui sont des activités de réflexion, qui sont des activités de création et qui sont des activités aussi d'acquisition à la fois linguistique et de connaissances. Alors, quand on dit acquisition linguistique, c'est vrai pour les auditeurs qui sont des auditeurs étrangers et qui apprennent le français, mais dans bien des cas, c'est vrai aussi pour des auditeurs qui sont français et qui vivent en France. Donc, cet espace apprendre s'adresse d'une part aux professeurs de français dans le monde et à leurs élèves qui veulent travailler à partir de documents très courts. Hein, ce sont des documents de 2 minutes à peu près, 2 minutes, 3 minutes. Et à partir de ces documents, donc, il y a des activités où on demande, on réfléchit sur le thème, on travaille sur le repérage d'informations à l'intérieur du document qui est proposé. Et puis après, on est soi-même invité à faire des activités, bien sûr, très créatives. C'est toujours créatif, récréatif et actif.
C'est toujours la démarche du Kavilam, hein, j'ai l'impression.
C'est la démarche aussi de Canal Academy, qui est le partage du savoir. Donc, l'idée, c'est comment faire pour que ces documents puissent être écoutés de manière active et puissent servir aussi à l'enseignement. Donc, pour de nombreux enfants en France, mais évidemment aussi à l'étranger, les connaissances transmises par des spécialistes français ne sont pas connues. Et donc, l'idée, c'est de rendre ces connaissances et ces interventions accessibles et ensuite de créer un environnement pédagogique qui rend ces extraits accessibles au plus grand nombre. Donc, nos auditeurs, dans ce cas-là, ce sont les professeurs et élèves de français, mais ce sont aussi les professeurs d'art plastique ou les professeurs de sciences ou les professeurs de mathématiques. Ça peut être aussi un groupe d'amis qui, un jour, a envie d'écouter une émission ou un extrait d'émission et de réfléchir ensemble à cette émission et au sujet du domaine de connaissances qui est traité.
Donc, ça va être très varié et très vaste, justement, comme sujet. C'est-à-dire, vous allez avoir François Cheng, mais aussi Yves Coppens, par exemple.
Tout à fait. D'ailleurs, les premières séquences qui ont été prévues et qui sont mises en ligne en novembre touchent l'eau. Il y a une intervention de Bernard Derrida, par exemple, hein, sur les systèmes désordonnés. Donc là, on est dans les mathématiques et la physique. C'est une chronique de Geneviève Guichenet sur « Et l'eau vint à manquer », donc sur le problème de l'eau. On parle de climatologie aussi, donc voilà des sujets plus scientifiques. Et puis, François Cheng parle de la différence qu'il y a parle de la peinture chinoise et donc de la différence de conception entre une vision occidentale et une vision orientale ou chinoise de la vie et de l'espace. Donc voilà des sujets quand même très, très différents. On parle aussi de Corneille, donc avec une intervention de Hélène Carrère-Dancos. Donc, en fait, l'idée, c'est de choisir une grande diversité de sujets, de façon à ce que l'auditeur, en tant qu'individu, être humain, professeur ou élève, être humain, lui, acquiert des connaissances. Et après, le rapport pédagogique, ou la relation pédagogique, c'est l'idée qu'au-delà de l'acquisition de connaissances, on réfléchit au support, on essaie de découvrir avec attention ce support et on voit comment il est construit. Et puis, il y a également tout un travail de création personnelle qui est suggéré.
Mais tout ça, très court.
Ah ben oui. Exactement. Les extraits, c'est 2 minutes. Il y a pour chaque extrait 4 à 5 activités seulement qui sont proposées. Et puis, à la fin, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un espace pour aller plus loin qui invite ceux qui en ont envie, soit à écouter l'émission en entier dont est extrait le document, soit à découvrir des sites internet ou bien une autre idée, bien sûr, des livres. Car un des objets de ce travail, c'est inciter à la curiosité, créer le désir de voir, le désir de comprendre, le désir d'apprendre.
Alors, je vous invite à vous reporter sur le site internet du Kavilam, déjà, kavilam.com, où toutes ces explications pédagogiques que vient d'exposer Michel Boiron seront effectivement détaillées. Et puis, vous pouvez aussi, sur l'espace de Canal Academy, le nouvel espace Apprendre, eh bien, retrouver Michel Boiron et retrouver effectivement les propositions qui sont faites en partenariat entre Canal Academy, le Kavilam et puis les partenaires qui nous ont aidés à monter ce projet.
Donc le ministère des Affaires étrangères et européennes, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et puis la DGLF-LF, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Merci, à bientôt.